Écoute de VOA Afrique.
Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. L'éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo s'est calmée hier, épargnant la ville de Goma, mais de nombreux habitants des faubourgs ont tout perdu. 15 personnes sont mortes, 9 accidentées, 2 calcinées, 4 prisonniers tués alors qu'ils tentaient de s'évader, a indiqué hier soir le porte-parole du gouvernement. Claire Morin-Gibourg nous donnera d'autres détails. Les Centrafricains ont voté hier dans le calme pour élire leurs 49 derniers députés dans des circonscriptions où le scrutin n'avait pas pu avoir lieu au premier tour il y a 5 mois en raison d'une offensive rebelle. Ces dernières partielles d'élections législatives laborieuses en 3 étapes présentaient peu d'enjeux. La nouvelle Chambre qui a commencé ses travaux est déjà dominée par le parti du président réélu le 27 décembre, Faustin Archange Touadéra. Au Bénin, le président Patrice Talon a prêté serment hier à Porto Novo pour un second mandat de 5 ans à la tête du Bénin après sa réélection mi-avril. Nous y reviendrons avec notre correspondante Ginette Fleur Adandé en seconde partie de cette édition. Le ministre marocain des Affaires étrangères a appelé hier l'Espagne à éviter ce que Nasser Bourita a appelé un pourrissement de la crise générée par l'accueil de Brahim Ghali, chef du Front Polisario, et à restaurer le partenariat stratégique entre les deux pays, notamment en termes de coopération migratoire. Madrid a justifié par des raisons humanitaires, la présence sur son sol du leader du mouvement indépendantiste du Sahara occidental, malade du coronavirus. Cette affaire a dégénéré en crise quand les forces marocaines ont relâché leur contrôle aux frontières la semaine dernière, laissant 10 000 Marocains rêvant d'émigrer en Europe, passer dans l'enclave espagnole de Ceuta. Les États-Unis vont imposer des restrictions de visa à des responsables érythréens et éthiopiens accusés d'avoir mis de l'huile sur le feu dans le conflit au Tigré, déplorant qu'il n'ait pas pris de mesures significatives pour mettre fin aux hostilités. Le peuple au Tigré continue de souffrir de violations des droits humains, d'abus, d'atrocités, et a urgemment besoin d'une aide humanitaire qui est bloquée par les militaires éthiopiens et érythréens ainsi que par d'autres acteurs armés, a déploré hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un communiqué. Après les traumas de la 4e guerre entre le Hamas et Israël, l'ONU a appelé hier à un véritable processus politique pour régler les causes du conflit israélo-palestinien outre la reconstruction de Gaza, afin d'éviter un nouveau conflit. L'Inde a franchi la barre des 300 000 décès dus au coronavirus, devenant le 3e pays du monde à atteindre ce chiffre derrière les États-Unis et le Brésil, alors que la pandémie continue de faire rage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants. De très rares cas de problèmes cardiaques chez des adolescents ou de jeunes adultes vaccinés contre le COVID-19 ont été rapportés par les autorités sanitaires américaines sans que le lien avec la vaccination soit établi pour le moment. Des signalements de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, ont été révélés chez des personnes relevés chez des personnes ayant reçu un vaccin à ARN messager comme ceux développés par Pfizer, BioNTech ou Moderna. Selon les centres de prévention et de lutte contre les maladies, la principale agence fédérale de santé publique du pays. Des fusillades ont fait 12 morts et une cinquantaine de blessés aux États-Unis au cours du week-end, selon la police et la presse américaine, dans un regain de violence armée qualifié le mois dernier d'épidémie par le président Joe Biden. La vague de fusillades a fait des victimes dans le New Jersey, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Ohio et au Minnesota. La chute d'une cabine de téléphérique a fait 14 morts, dont 5 Israéliens et un blessé grave dimanche à Streta, une station. La suite de nos informations, l'éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo s'est calmée hier, épargnant la ville de Goma, mais de nombreux habitants des faubourgs ont tout perdu. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Aucune activité notable n'a été constatée dans la soirée, mais de nombreux habitants de Goma ont gardé un œil vigilant sur la montagne dominant la ville. Après avoir fui la nuit précédente, les habitants sont rentrés progressivement chez eux. Selon des témoignages, des centaines de personnes ont tout perdu. Des sinistrés n'ont plus de maison, ils restent là par famille, coincés devant les boutiques le long des routes. À la tombée de la nuit, ils étaient des centaines à s'apprêter à passer la nuit dans la rue, sur des matelas, emportés dans leur fuite ou regroupés par endroits, par famille ou village. Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, a affirmé que le gouvernement suit avec attention la situation et il a promis une action plus énergique. L'urgence pour le moment est d'apporter l'assistance aux populations déplacées, a-t-il affirmé dimanche soir. Le président Félix Tshisekedi est de retour après avoir interrompu une tournée européenne pour superviser la coordination des secours, a annoncé la présidence de la République.
Ici aux États-Unis, une commémoration a eu lieu hier à Minneapolis à 2 jours de l'anniversaire de la mort de George Floyd sous le genou d'un policier blanc. Cette affaire avait suscité l'émoi dans le monde entier et provoqué un sursaut antiraciste dans le pays. Michel Joseph.
La famille et les amis de George Floyd se sont rassemblés dimanche dans le centre de Minneapolis pour protester contre les violences policières. Le quadragénaire afro-américain avait été filmé durant son arrestation pendant laquelle il avait suffoqué pendant près de 10 minutes sous le poids du policier Derek Chauvin. Il était mort peu après. Une manifestation a eu lieu devant le bâtiment où Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre le 20 avril. L'ancien policier, aujourd'hui incarcéré, sera fixé sur sa peine le 25 juin. D'autres commémorations sont prévues dans les prochains jours, notamment mardi, jour anniversaire du meurtre, où le président Joe Biden accueillera la famille de George Floyd à la Maison Blanche. Un an après, Minneapolis est toujours marquée par la violence avec une flambée des homicides et des agressions armées et des habitants de la ville se sont organisés en patrouilles citoyennes. Hier, les responsables religieux et les patrouilles ont promis d'unir leurs efforts avec ceux de la police pour faire baisser la violence.
Les chefs d'État et de gouvernement des 27 réunis en sommet aujourd'hui et demain mardi discuteront de possibles sanctions de l'Union européenne contre le Bélarus qui a forcé un avion de ligne à atterrir à Minsk et arrêté un opposant présent à son bord. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
Cet incident sans précédent ne restera pas sans conséquences, a indiqué Charles Michel, le président du Conseil européen. Dimanche, un Boeing 737 de la compagnie Ryanair a été intercepté par un avion de chasse bélarusse. Le média d'opposition Nexta a affirmé que son ancien rédacteur en chef, Roman Protasevich, à bord de l'appareil, a été arrêté après l'atterrissage d'urgence à l'aéroport de Minsk, une information confirmée par la télévision d'État bélarusse. L'avion de la compagnie Ryanair effectuait un vol entre la Grèce et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance, a dénoncé hier un incident sérieux et dangereux et a réclamé une enquête internationale. Malgré de précédentes sanctions européennes et américaines visant Alexandre Loukachenko et de hauts responsables de son gouvernement, le président bélarusse, soutenu par Moscou, n'a donné aucun signe sérieux de compromis face au mouvement de contestation. Au contraire, il a renforcé la répression.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, la 8e édition du Festival Amani à Goma au Nord Kivu ne se tiendra plus du 4 au 6 juin. L'événement est ramené à février 2022 suite à l'état de siège, la situation sécuritaire et la crise sanitaire. Amani, qui veut dire paix en swahili, réunit annuellement 30 000 festivaliers depuis 2013. Son fondateur Éric Delamotte, décédé le 17 août, a reçu le prix Lokoumou à titre posthume. Le gouverneur de la Banque centrale tunisienne, Marouane El Abbassi, a affirmé au Parlement que si la banque finançait le budget, cela entraînerait une inflation à trois chiffres. Il estime qu'il est essentiel de négocier avec le Fonds monétaire international, alors que se multiplient les appels à éviter un quatrième emprunt en 10 ans auprès du FMI. La Tunisie, dont la dette extérieure avoisine les 40 milliards de dollars, est en discussion avec l'instance internationale pour un nouveau prêt conditionné à des réformes. La Salam African Bank, une banque islamique de Djibouti, a acquis la totalité des actions de l'institution kenyane Uwezo Microfinance Bank. La banque djiboutienne, déjà implantée en Éthiopie, envisage d'étendre sa présence en Afrique de l'Est. Selon la Banque centrale du Kenya, les institutions de microfinance du pays ont connu des difficultés au cours de l'exercice 2020 en raison de la concurrence des banques numériques et des taux de défaut élevés.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Basketball, Ligue Africa à Kigali au Rwanda, la troisième journée des matchs de poule.
Oui, et les Mozambicains de Ferroviario de Maputo ont validé leur billet pour les quarts de finale en battant les Algériens du JSP 86-73. Les Tunisiens de Monastir ont fait de même en dominant les Rwandais de Patriot 91-75. Un sans faute pour l'instant, tout comme les Angolais du Petro Atlético de Luanda qui ont aussi signé 3 victoires en 3 matchs. Le dernier contre les Marocains de la SALE, score 97-78. Le dernier match se joue aujourd'hui entre le Zamalek du Caire et les Algériens du JS Pétrolier.
Cyclisme, l'épilogue du Tour international du Bénin, remporté par Paul Domon.
Le Burkinabé, vainqueur de la dernière étape courue dans les rues de Cotonou, assoit sa domination dans un tour où il a remporté 4 étapes sur 6. Ravi de ce sacre, Paul Domon reconnaît que ça n'a pas été aussi simple que cela.
Un grand soulagement d'avoir pu remporter ce tour. C'était une semaine très stressante avec 6 jours de course, vraiment toujours essayer de donner le meilleur de soi-même. Comme je l'ai dit, porter un maillot jaune, ça implique de grandes responsabilités. Donc on a tous les jours le devoir d'honorer ce maillot et de se battre pour l'avoir à la fin. C'est vrai qu'on a peut-être un petit peu cadenassé la course dès la première étape, mais ça a été vraiment accompagné de beaucoup d'attaques. Je suis très content d'avoir pu découvrir le tour du Bénin de cette façon-là. Découvrir en gagnant, c'est toujours plus satisfaisant. Donc vraiment, on est très contents, on était tous vraiment très soulagés de terminer ce tour tous unis, parce que vraiment ça, c'est important. On est venu à 6, on a terminé le tour à 6, donc on a fait preuve d'un grand collectif. Malgré les ennuis, les chutes, les problèmes mécaniques, vraiment, on a tenu bon et on est très contents de repartir avec ce maillot tous ensemble.
Le Burkina Faso intouchable à l'issue de cette course, 6 victoires en 6 étapes, et les 5 premiers du classement général. Le Bénin finit 3e avec Idrissou Bachiki, derrière l'Ivoirien Abou Sanogo classé 2e.
Au Sénégal, début hier de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer.
Oui, une compétition qui se déroule du côté de Sali, à 80 km de Dakar. Le pays hôte Tema force sa compétition dans la poule A en dominant l'Ouganda 5-1. Même score en faveur du Maroc face aux Seychelles dans un match du groupe B où le Mozambique s'est déployé pour venir à bout de l'Égypte sur le score de 7 buts à 5.
Et puis Élisée, les interclubs de la CAF connaissent désormais leurs affiches des demi-finales.
Tout à fait. Et en Ligue des Champions, Al Ahly joue l'Espérance de Tunis. Les Égyptiens, tenants du titre, ont bien géré leur quart de finale retour chez les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns en obtenant un nul, un partout après leur victoire 2-0 à l'aller. Quant aux Tunisiens, 4 fois sacrés, ils ont réussi à remonter leur handicap de 2-0 face aux Algériens du Sierra Belouizdad avant de s'imposer 3-2. L'autre demi-finale opposera les Marocains du Wydad de Casablanca, victorieux non sans peine du Moulidia d'Alger, au Sud-Africain de Kaizer Chiefs qui, eux, ont un peu tremblé en s'inclinant 3-0 face aux Tanzaniens de Simba qu'ils ont déjà battu 4-0 à l'aller.
En Coupe de la Confédération, on aura aussi deux belles affiches pour les demi-finales.
Exactement, Idrissa et le Raja de Casablanca, vainqueur 4-0 des Sud-Africains d'Orlando Pirates après le nul 1-1 du match aller, affrontera les Égyptiens de Pyramide Tombeur des Nigériens d'Enimba. Dans l'autre demi-finale, les Algériens de la JS Kabylie, qui ont arraché leur ticket devant les Tunisiens de Sfax, vont en découdre avec les Camerounais du Coton Sport de Garoua qui sont allés chercher leur qualification au Sénégal face aux Djarafs de Dakar. Les matchs aller de cette demi-finale auront lieu le 18 juin prochain.
Merci Élisée. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, depuis sa démission et reconduction le 14 mai dernier, le Premier ministre Mokhtar Ouane multiplie les rencontres pour former son deuxième gouvernement. L'acteur le plus attendu au sein de ce gouvernement, le M5-RFP, la coalition de partis politiques et de la société civile semble ne pas être intéressée. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Tour à tour, le Premier ministre Mokhtar Ouane a rencontré la classe politique, la société civile, les syndicats et les groupes armés signataires de l'accord de paix. Ces échanges terminés, la formation d'un nouveau gouvernement se fait toujours attendre alors que le pays est plongé dans un mouvement de grève générale paralysant l'administration et les banques. Pour le président de la coalition des forces politiques, Dr Abdoulaye Amadou Sy, Mokhtar Ouane aurait déjà pris l'engagement de respecter la charte de la transition.
Il nous a répondu qu'à eux, la transition devra prendre fin au bout de 18 mois tel que ça a été prévu et que la taille du gouvernement restera une taille de 25 personnes tel que ça a été prévu par la charte. Nous sommes donc d'accord avec lui.
Si l'objectif de ces rencontres est d'avoir l'accompagnement des acteurs pour plus d'inclusivité, la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, groupe armé signataire de l'accord de paix, se dit disponible à accompagner le gouvernement comme c'était déjà le cas. Le M5-RFP, coalition des forces politiques et de la société civile, qui avait enclenché les manifestations ayant abouti à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta l'an passé, estime que des réponses appropriées n'ont pas été apportées au point qu'il a soumis au président de la transition. Reçu par le président de la transition, après la rencontre avec le Premier ministre, le M5-RFP campe toujours sur ses positions et projette une grande mobilisation le 4 juin sur le boulevard de l'Indépendance. Rencontré par le Premier ministre, la société civile a, elle, émis le vœu de voir le M5-RFP participer au futur gouvernement. Mohamed Chérif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne.
Notre recommandation a été d'inclure le M5-RFP et aussi la société civile. Nous ne pouvons pas comprendre que le M5-RFP a fait un tel travail. Le CNSP même a dit qu'ils ont parachevé leur travail, qu'ils ne soient ni représentés dans le gouvernement, ni représentés au CNT. Donc nos recommandations, c'est de leur donner 5 postes ministériels, 5 postes pour la société civile et aussi remembrer ou dissoudre calmement le CNT et remembrer le CNT tout en laissant Malick Diaw comme président.
Compte tenu de son nombre et de son apport, la diaspora malienne doit, selon Mohamed Chérif Haïdara, avoir des représentants au sein du futur gouvernement.
La diaspora voudrait également être représentée au sein du gouvernement. Parce que nous représentons quand même un tiers de Maliens qui font 6 millions et nous apportons plus de 15% de PIB.
Pour le politologue Boubacar Bokoum, cette volonté d'intégrer tout le monde risque de faire sauter le verrou de 25 ministres prévus par la charte de la transition.
Malheureusement, ça va donner un goût de partage des gâteaux qui va donner un semblant de stabilité parce que tous ceux qui protestent se retrouvant dans le gouvernement vont certainement arrêter les protestations, mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose parce que c'est pas en changeant un gouvernement qu'on apporte un changement réel.
un climat politique incertain alors que le pays est paralysé depuis une semaine par une grève générale de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. La grève, reconduite ce matin pour 5 autres jours, commence à avoir des effets sur l'administration et l'économie du pays. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Bénin, le président Patrice Talon, vainqueur au premier tour de l'élection du 11 avril avec plus de 86% des voix, a été investi hier dimanche. Une cérémonie solennelle qui a eu lieu au stade Charles de Gaulle de Porto Novo et au cours de laquelle le président réélu a fait le serment de placer son nouveau mandat de 5 ans sous le signe du social. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur a Dandé.
Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple. Seul détenteur de la souveraineté, nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, jurons solennellement.
Patrice Talon est donc officiellement investi pour un nouveau mandat de 5 ans. Au cours de la prestation de serment ponctuée de coups de canon, Patrice Talon vient une deuxième fois de jurer d'apporter paix, sérénité et tranquillité au peuple béninois.
De préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple, en cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.
La cérémonie a été sobre et de courte durée. Les Béninois attendent énormément de ce second mandat qui, selon certains, ne devrait plus être celui des réformes institutionnelles. Olivier Dossou est un ouvrier. Il dit attendre le président sur le chantier du social.
Au cours du mandat passé, tout n'avait pas été rose et nous aurions souhaité que, au cours de ce second mandat, que les choses changent positivement. Nous sommes en train de payer le gari à un prix auquel nous n'avons jamais payé ça maintenant. Nous sommes en train de payer le maïs à un prix auquel on n'a jamais payé ça. Nous aurions souhaité que notre président penche beaucoup plus du côté du social pour qu'au cours de son second mandat, les choses aillent autrement.
Pour les enseignants, le chef de l'État doit faire du secteur de l'éducation une de ses priorités.
Il faut qu'on nous mette d'accord dans les conditions qu'il faut afin que l'éducation qui tient beaucoup à cœur au président, et nous puissions donner une nouvelle image à notre pays sur le plan éducatif.
Au cours de son discours d'investiture, Patrice Talon a levé un coin de voile sur les grands chantiers de son mandat. Il a souligné que le social aura une grande place et qu'il travaillera à repousser les limites de la pauvreté.
Ensemble, nous serons plus que jamais les maîtres de notre destin et capables de relever tous ces défis. Ce mandat sera donc hautement social.
Comme on pouvait s'y attendre, aucun membre de l'opposition radicale n'était présent à la cérémonie d'investiture. Patrice Talon promet de s'investir pour la paix et l'unité sociale.
Qu'il s'agisse de renforcer l'unité nationale, d'assurer notre sécurité, de mettre en place les infrastructures de base indispensables au développement socio-économique ou encore de reconstruire l'école béninoise et notre système de santé.
Tous les regards sont donc tournés vers la liste du prochain gouvernement qui se trouverait déjà sur la table des députés. Quelques jours après sa réélection, Patrice Talon avait déjà souligné qu'il ne formerait pas un gouvernement de remerciement, mais qu'il choisira que des hommes et femmes qu'il croit capables de l'aider à atteindre ses objectifs de développement du Bénin. De Cotonou, Ginette Le Adonné pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, on parle de réconciliation nationale et c'est le reggae qui est utilisé pour sensibiliser les populations. La 8e édition des Marley d'or, les trophées de la musique reggae au Burkina Faso, s'est tenue ce week-end à Ouagadougou. De la capitale du Burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
Ici, dans la cour du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, des milliers de spectateurs, des adeptes du reggae sont là. Plusieurs musiciens, essentiellement burkinabés et ivoiriens, se succèdent sur scène. Le public est en liesse. Nous sommes au Marley d'or. On ne parle que de paix et de réconciliation ici. Mat est une festivalière.
Je suis ivoirienne, bête, je vis au Ghana, je vis à Accra, je suis venue, j'ai vu mes amis ivoiriennes, Moulaine Mala, tout le monde, c'est vraiment c'est très bien.
On parle de paix, de l'union de l'Afrique, vous c'est important?
C'est très important pour faire la réconciliation, et la paix c'est très important.
Issaka Ouédraogo est aussi un festivalier.
Sans la paix, il n'y a pas la vie aussi. On veut la paix. C'est tout Burkina Faso.
Des autorités, personnalités politiques sont aussi mobilisées. Les ministres de la réconciliation du Burkina, Zéphirin Diabré, et de la Côte d'Ivoire, Kouadi Okuna Bertin, Di Kakabé, sont au premier rang de la soirée. Kouadi Okuna Bertin, ministre ivoirien de la réconciliation.
Notre pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, notre sous-région, tous nous en avons besoin. C'est pourquoi il faut que les jeunes, la sous-région, qu'ils soient du Burkina, qu'ils soient de la Côte d'Ivoire, du Liberia, il faut que les jeunes s'investissent pleinement dans ce processus de réconciliation.
Zéphirin Diabré, ministre burkinabé de la réconciliation.
Le reggae est une musique de paix et de cohésion sociale. À l'occasion de ce mandat d'or, on a choisi de récompenser les efforts de réconciliation nationale. C'est aussi un facteur d'incitation à faire beaucoup mieux. Pour que notre mission s'achève, en tout cas avec un grand succès.
À cette manifestation, le chef de file de l'opposition encourage la résilience des populations. Eddy Kombeogo.
Le reggae a été toujours une musique de résilience. Que cette résilience habite les forces de défense et de sécurité des deux pays et les politiques des deux pays pour que nous puissions triompher.
Il était capital pour les organisateurs de parler de réconciliation en ces temps d'incertitude marqués par le terrorisme pour ces deux pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et même la sous-région. Mades est le promoteur des Marlés d'or.
Pour que les gens se réunissent même pour faire la fête, pour que les gens se réunissent pour faire le Marlés d'or, il faut d'abord la paix, il faut la réconciliation, il faut apaiser le cœur. On n'a qu'un seul pays, on connaît tous l'histoire de notre pays et je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on apaise le cœur des uns et des autres et qu'on va de l'avant.
Cela fait 8 ans que la manifestation se tient. Chaque année, les Marlés d'or s'appuient sur une thématique d'actualité pour sensibiliser les populations et envoyer des messages positifs, des vibrations positives, comme le disent les organisateurs. Cette année, c'est Ismo Vitalo, le musicien burkinabé, qui a remporté le prestigieux trophée, le Marlés d'or. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans le cadre d'une série cette semaine sur le basketball africain, le Cameroun, l'équipe des forces armées et police représente ce pays à la Ligue africaine de basketball organisée avec le soutien de la NBA. Cette équipe est l'un des clubs institutionnels du pays et bénéficie des financements publics, lesquels permettent à cette équipe de se maintenir à un niveau supérieur de basketball sur le plan local. Mais pour les autres clubs, il faut d'énormes sacrifices et beaucoup d'endurance pour pratiquer la discipline. Malgré cela, de nombreux jeunes Camerounais aspirent à faire carrière dans le basketball, comme vous allez le constater dans ce reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julta.
Touché sur le dos, genou à la poitrine, on tire un.
Derniers exercices physiques d'avant-match pour l'équipe de basketball. À Escape the Dream, sommes à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé. À Escape the Dream dispute un match du championnat de la Ligue régionale du basketball du centre contre Biémassi Falcon, un club de Yaoundé.
Allez, s'ils défendent l'individuel strict, drivez vers l'intérieur pour provoquer. C'est compris les gars.
60% des clubs locaux proviennent de cette ligue basée à la capitale Yaoundé. Le championnat se dispute chaque samedi et dimanche entre les mois de février et juin et regroupe toutes les catégories. Mouen et Toukanana, poste 4 de Biémassi Falcon.
Nous avons par exemple nos aînés académiques qui ont travaillé dur pour pouvoir être qualifiés pour la balle du Haut Rwanda. Il est question qu'on essaye de suivre leurs exemples.
Jean-Daniel Mouchari, entraîneur d'AS Keep the Dream.
Les infrastructures et les équipements qui sont encore assez chers pour nous. Vous voyez les maillots, les ballons.
Béac, INGS, Youk, Condor sont quelques noms de clubs mythiques du basketball camerounais. Des clubs institutionnels qui n'ont aucun titre continental. L'équipe nationale encore moins.
Mais je pense que le basketball camerounais a un énorme potentiel. On peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement.
Yves Tiala, ancien international camerounais, président de la Ligue régionale de basketball du centre.
Au niveau du Cameroun, on forme bien les juniors, mais à un moment, les gens partent parce qu'on n'a pas beaucoup de perspectives dans les catégories compétitives seniors.
La Ligue africaine de basketball est une lueur d'espoir pour la fédération. Une fois encore, Yves Tiala, ancien international camerounais.
Avec l'avènement de cette compétition, des gens peuvent envisager de rester davantage ici parce que on peut jouer la balle et avoir certains revenus. On peut se faire voir à travers différents circuits dans le monde et trouver la chance ailleurs, en Afrique ou en Asie.
Pascal Siakam, Joel Embiid, Luc Mbambouté, des Camerounais de la NBA, sont des sources d'inspiration pour les jeunes basketteurs camerounais qui rêvent tous d'une carrière similaire. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Edrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de